Bonjour à tous et bienvenue sur le 109e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 23 août. Et au sommaire de notre émission, une grosse partie d'essais. Avec notamment du Justice League Dark, du Teen Titans, du Batman, du Flash, plein de choses. Du côté de l'indé, du Icon avec Super Crooks, Brilliant, mais aussi du Image et du Marvel. Où là par contre, les choses se gâtent énormément. Mais vous verrez ça tout à l'heure. Je suis Steve, vous écoutez Comics Weekly. Avec moi cette semaine, Mister Nebony.
Oui, bonsoir, bonjour.
King Ed.
Ouais, salut.
Et Sam.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va.
Eh ben, vous allez aller vachement plus mal tout à l'heure. C'est comme je vous le dis. Surtout quand on va attaquer Marvel. Quand on va attaquer Marvel, ça va aller vachement pas bien, vous allez voir. On va commencer avec la grosse sortie de la semaine, qui est d'ailleurs ton coup de cœur, Bunny, c'est le Justice League Dark.
Jeff Lemire, bien sûr, est au scénario et Michael Ranin au dessin. Et au fait, il s'est passé pas mal de choses. L'équipe donc de la Justice League Dark a été trahie par le docteur Mist. Faust lui a promis de pouvoir ressusciter sa femme si ce dernier lui confiait les livres, les fameux... Enfin, c'est le cube, je sais plus comment il l'appelle, le cube, c'est pas le cube cosmique, mais c'est...
Non, le cube contient la carte qui désigne l'emplacement des livres.
Voilà. Ouais. Et donc, en travaillant pour Faust, il lui a promis de ressusciter sa femme. Donc, ce dernier a accepté, il a trahi son équipe, et la Justice League se retrouve en mauvaise posture. Et qu'est-ce que je peux dire? Oui, que Faust travaille visiblement pour quelqu'un, on ne sait pas qui, une personne mystère qui est derrière tout ça, qui ressemble étrangement de silhouette à John Constantine, puisqu'il fume et il a les mêmes tatouages, donc c'est assez étrange. Du coup, l'équipe, elle, se sépare en deux parties, il y a John Constantine d'un côté avec Orchid qui se déplace dans la House of Mystery. La fameuse House of Mystery. Et on voit aussi une scène assez intéressante où il y a la House of Secrets, où en fait l'ennemi mystère, donc celui qui est au-dessus de Faust, rend visite au Docteur Occulte. Et donc je connaissais pas en fait le Docteur Occulte. Je savais même pas qu'il y avait eu ce personnage-là.
C'est un personnage de l'univers magique de DC un peu ancien.
Et puis c'est Jeff Lemire, il a été chercher vraiment plein de vieux concepts.
Il a repris énormément de personnages. Déjà dans le numéro précédent, on avait vu Team Hunter. Là, on le retrouve.
D'ailleurs, c'est qui ce Team Hunter? Parce que j'arrive pas à le replacer.
Il était dans
Vertigo, Magic, je crois. Chez Vertigo.
Ouais.
Ah d'accord, c'est pour ça que je l'ai pas lu.
Ouais, il y a plein de personnages. On en apprend un peu plus aussi sur Zatara et peut-être sur le lien justement entre Constantine et peut-être la mort du père de Zatanna. Donc il y a vraiment, il nous remet tous les personnages de l'univers magique. C'est plutôt sympa, quoi.
Comme dans les épisodes précédents, il y a un paquet d'idées, mais pour moi ça a toujours du mal à prendre, je dois dire.
Ah moi j'aime bien, quoi. Et puis alors
je dis pas que j'aime pas, mais je dis
ça avance hyper vite. Enfin je trouve qu'il se passe plein de choses.
Bon, cet épisode c'est un peu pied sur le frein, donc.
On apprend qu'il y a ce big méchant là quand même. On voit quand
justement,
même.
Ça fait un peu cliché quand même, hein, je trouve la scène.
Et le dites pas, mais est-ce que vous avez une idée sur son identité? Est-ce que vous savez si c'est un personnage qu'on connaît déjà dans l'univers DC ou ça vous êtes mystérieux? Enfin, vous avez aucune idée non plus.
Bah, au début, moi, je me suis dit putain, si ça tombe, c'est vraiment Constantine qui se fout de la gueule du monde et qui manipule tout le monde pour avoir les bouquins. Tu vois ce que je veux dire? Qui joue un jeu. Mais non, là ça paraît trop gros. Mais je sais pas, parce qu'en même temps, vous savez peut-être pas, mais dans les épisodes actuels de John Constantine, il apprend que sa sœur, avant de mourir, a eu un fils, et ce fils-là a aussi des pouvoirs, et il a un petit peu le look de Constantine. Mais ça m'étonnerait que ce soit lié, quoi, parce que l'univers Vertigo est totalement séparé.
C'est l'univers Vertigo, ouais.
Donc, mais c'est assez bizarre comme coïncidence, quoi, comme par hasard. Enfin bon.
Mais la série, je trouve, enfin déjà il y a toujours ces superbes dessins de Michael Ranin, il y a des très belles splash pages. On retrouve un personnage un peu ancien de l'univers DC qui est vraiment très bien représenté. À un moment, j'ai bien aimé. Non, franchement, c'est pour moi c'est une des meilleures séries de la ligne New 52. Chaque mois, ça fait partie de mes meilleures lectures. Bon, j'attends la suite avec impatience. Un petit peu déçu, comme pour d'autres séries où justement le prochain numéro, c'est pas la suite directe, mais on va en apprendre plus sur les origines de Constantine. Donc,
Le prochain numéro, ils disent même que, au fait, c'est le petit secret entre Constantine et Zatanna. Donc, ça pourrait être.
C'est pas vraiment un secret, mais tout au courant. Hein.
Non, mais enfin, je veux dire, si on peut, moi, j'aime bien ce couple, donc si on peut en savoir plus, si on peut en voir plus sur eux deux, pourquoi pas. Franchement, moi, le numéro 0, en tout cas pour cette série, m'intéresse, donc tant mieux.
D'accord, donc pour vous trois, c'est un bail.
Perso, plutôt un bon check-it. Mais
Pour moi, c'est un bail, totalement. C'est ma meilleure lecture.
C'est une bonne lecture, mais sans plus.
Très bien. On continue avec les Teen Titans.
Oui, alors ça sera juste moi cette fois-ci. Scott Lobdell au scénario, Brett Booth au dessin. Alors, à ma grande surprise, un numéro assez sympa, alors que j'avais plutôt tendance à bâcher les précédents. C'est peut-être pour ça que ça a été bien, justement. Voilà, ça c'est fait. Donc en fait, Wondergirl a quelques petits problèmes avec son armure. On comprend au fil de l'épisode qu'en fait, son armure est une espèce d'arme antique, enfin d'item antique très puissant, qui, s'il n'est pas contrôlé, peut détruire le monde.
Donc, c'est ballot.
Voilà, c'est un peu con. Et que son ex, avec qui elle avait eu quelques démêlés sur le contrôle de l'armure en question, a aussi des vues sur en fait d'autres items de pouvoir. Voilà. Je le dis encore, ma grande surprise, la lecture est beaucoup plus fluide, je trouve, que sur les précédents épisodes. Brett Booth, le dessinateur, est très en forme dessus. Là, sur les scènes d'action, il est excellent. Donc voilà, une bonne lecture, ça se prend pas trop la tête.
Et ça, boyfriend, c'est une nouvelle création ou c'est d'accord. Okay.
C'est une nouvelle création. Ouais. On a quand même bon sentiment de. Ça aurait pu être fait dans les années 90, mais un bon sentiment, pas ce que j'ai d'habitude sur certaines séries. Sans commentaire, sinon. un bon check-it, c'était une bonne surprise.
Ok, allez, on va faire un tour du côté de Batman maintenant avec le Dark Knight numéro 12.
Ouais, alors moi je l'ai lu, je crois que Sam tu l'as lu aussi. Ouais. Numéro 3 d'un arc de Greg Hurwitz avec au dessin David Finch. Un David Finch que je trouve très en forme dans le côté sombre. Ouais, c'est cet épisode vraiment de très bonne qualité. Au niveau du scénario, ça va chercher un peu dans la psychanalyse de Batman, toujours un petit peu on se dit ça va encore tourner autour des parents et compagnie, et finalement ça va un peu plus loin. Ça analyse tout sur la peur de Batman, sur ses craintes, et en même temps en parallèle, on voit un petit peu plus la jeunesse de Scarecrow, un Scarecrow qui fait beaucoup plus peur, je trouve, que dans les précédentes versions qu'on avait. Et j'ai été très étonné par la fin, qui est pas vraiment un cliffhanger, mais qui laisse un petit peu vraiment de, enfin dubitatif, mais en même temps curieux de savoir comment ça va être traité par la suite. Je sais pas ce que t'en as pensé, Sam.
Bah, une bonne surprise, parce que j'avais pas trop aimé les épisodes précédents, que ce soit au niveau du scénario ou du dessin, parce que même David Finch sur les épisodes précédents, je trouvais les dernières pages vraiment faites à la va-vite, c'est-à-dire que la mise en scène était un peu ratée, et le dessin assez schématique parfois. Alors que là, très en forme, même si parfois c'est un peu gore, faut quand même le dire.
Ouais, faut avouer quand même que du schématique de Finch, c'est nettement mieux que,
oui,
que du, le meilleur de notre trait à nous tous, je pense.
Oui, ça c'est clair.
Mais oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ouais.
Sinon, effectivement, il y a un parallèle qui est fait entre l'enfance de Scarecrow et de Batman sur effectivement leur solitude. C'est très bien fait. C'est très bien mis en avant, très bien exécuté, alors que c'est souvent le genre de scénario un peu casse-gueule, surtout sur Batman, puisque ça a quand même été fait 2000 milliards de fois. La seule complainte que j'aurais, c'est qu'il y a quelques petites modifications, je trouve, qui sont un peu gênantes dans l'origine, en fait, qui est représentée de Batman, qui est plus proche parfois de Batman Begins que de...
Il y a un gros clin d'œil à Batman Begins, oui.
Voilà, voilà. Et surtout la manière dont est décrite le père de Bruce, comme quelqu'un d'assez froid, d'assez distant, qui est très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Donc voilà, c'est mes seuls complots en fait. Sinon, l'épisode est très bon.
D'accord.
Donc c'est un bail. C'est un bail.
Non, c'est pas le docteur Hurt, le père de Bruce.
C'est ce que j'allais dire, mais finalement, la façon dont tu le décris, ça me rapproche un peu du Thomas de Grant Morrison, finalement.
Même pas, parce que je trouvais que même le Thomas Wayne de Grant Morrison est assez paternel, vraiment. On voyait qu'il aimait son fils, alors que là, c'est vraiment, tu me gênes.
Le truc, c'est que c'est sous le prisme quand même du
voilà, gaz. Au large. Terreur, je me demande si c'est pas la manière dont il craint que ce soit la manière dont son père le père sauvait, une espèce de gêne qu'il fallait dégager, donc peut-être.
Ok. Alors on va rester avec du Batman. Alors un Batman qui n'est pas réellement sorti cette semaine. Il a été surtout mis en vente par ceux qui ont respecté la consigne de DC de le retarder en termes de vente. C'est le Batman Inc. numéro 3. Benny, tu l'as lu du coup cette fois-ci?
Ouais, je l'ai lu. Bah écoute, alors un Batman Inc. Qui est pratiquement un épisode, comment dire, fill-in, dans la mesure où l'intrigue n'avance pas du tout. En gros, c'est Batman qui ressort le costume de Matches Malone pour enquêter, au fait, pour infiltrer le réseau de Talia.
Oui.
Bon. Puis il y a surtout ce truc avec Damian qui décide, comme il est censé se faire passer pour mort. D'ailleurs, j'avais complètement oublié qu'il était censé être mort et Morrison le rappelle. Oui, mais Morrison le rappelle en plein milieu et puis voilà. Enfin, je veux dire, il y a aucune surprise. Effectivement, le cliffhanger qu'on avait vu venir, bah c'est ça quoi. C'était juste un plan de Batman tout bête pour duper Talia. Et il se crée donc Damian une nouvelle identité, l'identité de Red Bird, qui on a l'impression que c'est un personnage sorti de Kick-Ass quoi.
Ouais. Voilà. Bah un peu le même avis sur l'épisode. C'est déjà le personnage de Matt Malone, c'est pas un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est
en
sympa
c'est
sur
deux... en plus, hein.
Ouais, c'est disons que c'est bien sur 2 pages. Sur 20 là, ça commence à devenir chiant. Sinon, ça montre bien en fait l'emprise de Léviathan sur en fait tout, sur toutes les structures de Gotham. Ils sont partout en fait.
Oui, donc, voilà. Le début, les premières pages sont marrantes, mais alors après, on s'en.
Ouais,
merde.
Ça devient. C'est franchement le des 3 épisodes de la série, c'est le plus faible. Là où les 2 premiers étaient vraiment excellents.
Mais c'est étonnant parce qu'en plus, on a l'impression qu'il prend son temps, qu'il a du temps. Il a que 12 numéros, quoi. Faut quand même que ça avance et. Je trouve ça un peu bête de faire un épisode comme ça, qui finalement...
Sauf s'il a de gros plans pour la suite.
Ouais.
Il peut se permettre d'être... Ouais. Donc, plutôt un bon check-it, mais sans plus.
Ouais,
sans grand public.
Petit check-it.
Très bien. On va continuer avec de l'indé maintenant, et la sortie du numéro 3 d'America's Got Powers. Alors, il aurait dû déjà sortir au mois de juin.
Ouais.
Donc on est au mois d'août. Il y a juste 2 mois de retard.
Après Brian Hitch, hein.
Alors,
il était en train de dessiner Ultron War.
Est-ce que c'est vraiment Brian Hitch qui est en cause? Parce que j'ai vérifié, donc c'est Jonathan Ross qui fait le scénario, Brian Hitch qui dessine. Et au niveau des encreurs, cette fois-ci, on a Paul Neary et Jason Paz. Andrew Curry ne l'encre pas. Alors que Andrew Curry l'ancrait pour les 2 premières. Est-ce que ce serait pas un problème dû à Andrew Curry qui n'a pas pu ancrer à temps? Je ne sais pas. Enfin, tout ce que je vois, c'est qu'il y a 2 mois de retard et que j'en avais oublié la sortie de cette série, honnêtement. Donc ça a été dur de me remettre dedans. Tu l'as lu aussi, hein, Benny, je crois.
Non,
c'est Sam. Pardon. C'est Sam qui l'a lu.
Je voulais le lire et puis finalement j'ai pas eu le temps.
Ouais, j'étais déjà pas franchement enthousiaste après la lecture des 2 premiers épisodes parce que c'était pas franchement incroyable et toujours pas convaincu. C'est pas terrible franchement. C'est pas passionnant, pas intéressant. Le personnage principal continue à me donner de l'eczéma. Voilà.
Alors bon, bah dans cet épisode, on va apprendre un peu plus sur cette espèce de compagnie qui gère les gamins à super pouvoir. On voit tout ce qu'ils leur font subir dans leur labo secret, etc. Bon, des choses relativement classiques au final. Hein, pas de grandes surprises, pas de nouveautés, rien de neuf. Quoi. On s'imaginait déjà tout ça finalement.
Ouais.
Et le personnage principal va devoir aller combattre dans l'arène. Bien sûr, ses pouvoirs ne marchent pas et on va comprendre peu à peu quel est son véritable pouvoir. Ouais.
Ouais.
Je suis pas,
même moi,
je suis
même
pas
ça,
convaincu.
Je l'ai pas compris.
Je suis pas convaincu, quoi. Je suis pas vraiment convaincu de ce pouvoir, de la façon dont c'est fait. Non, je vais dire qu'un petit check-it. Moi, en même temps, cette semaine, je suis vraiment pas emballé par grand-chose.
Ah bah,
t'es gentil,
parce que moi, je dirais pas ça, franchement.
Ah ouais, carrément.
Les dessins sont toujours bien, quoique je trouve que certaines scènes sont franchement confuses. Notamment la fin, la grande baston. Alors, je pense que c'est volontaire, mais c'est pas très agréable à regarder.
Ouais.
Mais le scénario, bonjour. Hein.
Bon, rappelons que c'est en 6, donc il n'y a pas grand chose quoi à en tirer, à mon avis.
C'est en 6, et si ça marche, il y aura des suites.
Oh pitié. J'ai pas l'impression que ça marche beaucoup. Hein.
Ouais, puis un retard de 2 mois sur des productions indépendantes, c'est risqué.
Moi j'aimerais bien qu'ils nous fassent Friends Got Powers avec, je sais pas, Captain Saucisson, quelque chose comme ça.
Ouais, non, bon, je sais pas, c'est pas.
Captain Marvel.
Putain, mais.
Le fameux Captain Marvel.
Je comprends pas l'intérêt voilà de la mini, je sais pas ce qu'ils veulent faire mais
franchement, une critique de la télé-réalité, une critique des
ouais,
cours internement, tout ça.
Ça a déjà été fait.
Mais voilà, ça a déjà été fait, il y a rien de neuf sous le soleil quoi. pas top.
Disons, il y a pas de point de vue original, c'est ça le problème.
Ouais, puis bon, ces deux commentateurs là de l'épreuve qui essayent de nous rendre totalement détestables.
Bon, bah, c'est pas difficile.
Je pense qu'il en fait trop à mon avis, Jonathan Ross là-dessus. Ça, c'est over the top quoi. Franchement, c'est ils en font tellement, c'est tellement voilà, tellement pourri, tellement malsain de leur part. Je veux dire, quand on voit que ce sont des gamins et que t'as le commentateur qui fait je peux pas m'empêcher de regarder, je sais plus, c'est Ice, je crois, un truc comme ça, le personnage, parce que elle a l'air en body avec un truc qui ressemble un peu à un string. Je veux dire, c'est une gamine quoi. Voilà, à vouloir nous faire des trucs comme ça, finalement, ça en fait un peu trop et du coup, on sort facilement de la chose. Dommage. Un petit raté pour cet épisode-là, espérons que ça reprenne. Il y a un twist qui peut peut-être donner quelque chose d'assez intéressant, on verra.
Moi,
ça ne va pas s'intéresser.
On continue avec autre chose chez Image, c'est la sortie de Planétoïde numéro 3.
Oui, de beaucoup mieux, hein, on va dire, surtout. Ken Garing, surtout, puisqu'il fait tout sur la série. Du dessin au lettrage, au scénario, enfin absolument tout. Donc Planétoïde, c'est l'histoire de mercenaires en fait qui se retrouve qui s'écrase un jour sur une planète d'où il est très difficile de quitter à cause de la gravité qui est extrêmement puissante. Voilà. Le champ gravitationnel de la planète empêche le décollage de tout vaisseau et en plus sur la planète, c'était une ancienne mine qui est contrôlée par des machines tueuses qui ont tendance à lobotomiser tous les humains sur lesquels elles peuvent mettre la main. Ce qui est très sympa quand on est un humain là-bas.
J'ai envie d'aller y prendre des vacances, moi je dis.
Voilà, surtout que c'est
la blague.
C'est un peu la zone. Hein.
Oh,
c'est un peu
désolé.
La
zone. Désolé, Benny.
Non mais c'était une blague tellement drôle que je te la laisse.
Donc en fait, ce mercenaire qui s'appelle Silas avait réussi à mettre la main en fait avant de s'écraser sur une arme un peu expérimentale, ce qui fait qu'il arrive assez vite à mater les robots, enfin quelques robots qui viennent le faire chier. Et donc on a plein de tribus qui vivaient là, qui en fait viennent se mettre un peu sous son commandement, alors qu'il essaye de réparer un vaisseau pour pouvoir se tirer. Alors pour te dire, j'ai adoré cet épisode de bout en bout, puisque c'est une structure assez originale, puisque on a en fait la déclinaison de ce qui se passe sur 2 mois, c'est-à-dire jour 7, jour 30, jour 45, c'est un peu une espèce de journal, où on voit en fait toutes ces tribus qui sont mises ensemble, qui essayent de vivre ensemble. C'est très sympa, c'est comment s'organise la chasse, comment s'organise la récupération de pièces, comment trouver de la nourriture, comment la partager, comment réparer, alors que Silas leur apprend un paquet de trucs pour essayer de survivre. Donc vraiment une putain de bonne lecture de bout en bout.
Il y a Denis Brognard dans le truc.
Vraiment, c'était à deux doigts d'être mon coup de cœur de la semaine. Voilà, c'est à dire combien j'ai aimé cet épisode.
Bah alors, c'est quoi, pourquoi pas celui-là?
Ah, vous le saurez bientôt.
Parce qu'il a préféré l'autre.
Ouais, disons que c'était très bien et l'autre était encore mieux. Voilà.
D'accord.
J'ai trouvé la réponse facile finalement.
Oh bah tu donnes envie, dis donc.
Voilà, donc un gros bail. Un bail, vraiment, faut pas le rater.
On reviendra chez Image tout à l'heure, on va passer chez Icon maintenant avec la sortie de Super Crooks 4 qui doit être la fin de la mini si je me trompe pas.
Oui, tout fait, donc une mini en 4 numéros avec Marc Millar au scénario et Lenil Francis Yu au dessin. C'est la conclusion, là ils sont en train de faire leur fameux cambriolage où en fait ils vont essayer de récupérer la fortune d'un ancien super vilain qui s'appelle Le Bâtard.
Donc c'est écrit par Marc Millar, c'est ça hein.
Voilà, c'est écrit par Marc Millar. Donc Le Bâtard, il porte bien son nom hein, parce que c'est quand même un des méchants les plus vicieux qu'on ait pu voir dans un comics. Il a les mêmes pouvoirs que dans Scanner, c'est-à-dire il est capable de faire exploser les têtes des gens. Voilà, bah il est très riche maintenant, il est un peu vieux, et donc il y a toute cette équipe là qui veut essayer de récupérer sa thune pour pouvoir aider en fait un de leurs amis qui a des dettes de jeu en fait et sa vie est en danger.
Bah, au fait, c'est un petit peu Ocean et Eleven.
Et bah, tout à fait, exactement. Voilà, donc il a rassemblé toute une équipe. Donc le héros Johnny, il a rassemblé une équipe de super héros et de super vilains qui ont tous des pouvoirs assez sympas. Il y a des petits clins d'œil aux super héros classiques qu'on a chez Marvel. Et c'est surtout en fait là, the heist quoi. En fait, ils attaquent la maison. Il y a un moment que j'ai vraiment adoré. En fait, il y a un clin d'œil à Resident Evil, le film qui est très mauvais, mais où il y a cette fameuse scène avec un couloir et des lasers qui empêchent de franchir en fait une zone. Et là, ils trouvent une façon vraiment très originale de traverser cette zone. J'ai trouvé ça excellent. Et il y a un.
Et ils font quoi? Ils pètent le couloir? Je sais
pas. Non, mais il faut voir le comic. C'est vraiment c'est énorme. Il y a beaucoup d'humour. C'est très très badass, mais en même temps, c'est pas ultra vulgaire. C'est moins vulgaire qu'un Kick-Ass, par exemple. J'ai beaucoup aimé le twist à la fin. C'est excellent. Franchement, ça fait une très très bonne mini-série. Ce numéro est un peu plus cher parce qu'il est aussi un petit peu plus gros. Il y a une trentaine de pages, voire un peu plus.
Avec Mac Millar, dès que c'est un tout petit peu plus gros, on en profite pour augmenter le prix. On trouvera tout
voilà,
les
ouais, c'est ça. Mais par contre, artistiquement, c'est du Lenil Francis Yu de haute volée. C'est une. Il peut y avoir une suite, mais ça fait quand même une histoire complète avec un début, une fin. Ça peut très bien s'arrêter là. Franchement, c'est parmi les trucs que j'ai lus dernièrement de Mark Millar qui m'a le plus plu et bah, je le conseille. Franchement, pour moi, c'est un bail.
Et tu
Allez,
penses que
dans deux ans, c'est au ciné, moi je dis.
Ouais, ben bah, voilà. Est-ce que tu penses que ça ferait un bon film?
Ça pourrait faire un bon film, mais c'est quand même peut-être un peu violent par rapport à.
Oui, mais ça ouais, serait du quoi.
Pourquoi pas, mais en tout cas l'histoire est bonne et les personnages sont charismatiques, donc pourquoi pas.
De toute façon, quand tu vois qu'ils ont adapté Kick-Ass au cinéma, après tout, on
peut adapter. Bah, déjà, moi j'attends de voir parce que Kick-Ass 2, là ils sont en train de le tourner et c'était très très violent et très vulgaire, donc.
Ouais, mais regarde Kick-Ass par rapport à ce que ça a donné au cinéma, vachement soft.
Pourquoi pas, ouais. En tout cas, ça ferait un bon Ocean's Eleven façon super-héros, quoi.
Ok, donc recommandé par King-Ed.
Voilà.
Un bail. Puis je pense assez rapidement en français maintenant que la mini-série est terminée.
Ouais, je pense. Mais j'espère en un seul volume, hein, Panini. Hein.
Bah, il n'y en a que quatre. Ils vont pas quand même nous le faire en deux cette fois-ci.
Bah attends, ils nous ont quand même séparé Avengers Extinction en deux numéros. Ouais.
Oui.
Ouais, et puis enfin supérieur en deux numéros, bof quoi.
Ouais, mais bon.
Je sais qu'il y en avait six, mais quand même.
Sept.
Six ou sept, je sais plus.
Sept supérieurs.
D'accord.
Sept, mais le dernier c'est le possible, il me semble.
J'ai remarqué que maintenant, ils se faisaient pas chier les auteurs. Ils reprenaient des concepts existants et ils le mettaient à la sauce super-héros. Donc, Ocean Eleven, on va en faire un truc de super-héros. Allez, on va prendre Koh-Lanta, on va faire le Koh-Lanta des super-héros, etc., etc. Quoi. Et c'est un petit peu ça quand même. Je remarque sur les séries indées en ce moment.
Ouais, bon, tant que ça marche après tout.
Si c'est réussi là, comme c'est le cas pour Super Crooks, ça va.
Ben, on va parler d'un truc moins réussi du coup.
Ouais, on va passer à l'autre grand membre d'Icon, hein, parce qu'on sait très bien qu'Icon, il y en a que deux. Il y a Millar, et de l'autre côté, il y a Bendis. On va parler de la sortie de Brilliant numéro 4. Si, je vous assure, il est sorti. ça arrive, des fois, comme ça, il y a des miracles. Ou est-ce vraiment un miracle? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Brian Michael Bendis au scénario, Mark Bagley au dessin, Joe Rubinstein à l'ancrage. Tu l'as lu aussi, Benny?
Oui, bah pour moi c'est le scandale absolu, la merde de la semaine.
Ah, c'est pas très brillant.
Oh, c'est...
oh là là.
C'est au moins aussi mauvais que cette vanne. ce qui prouve le niveau abyssal. Alors en fait, c'est très drôle parce que c'est vraiment du Bendis qui se parodie. On a 36 000 pages avec 4 personnes qui parlent, tu sais, façon confessionnelle.
Ouais, bah c'est-à-dire que là, il demande à Mark Bagley de faire du Michael Avanoming, tout simplement.
Voilà, et le truc c'est que il y a un moment un personnage qui répète sans déconner 5 fois la même réplique quoi, à diverses pages d'intervalle, mais c'est vraiment la même chose. Et c'est très mauvais. Et alors le pire de tout, c'est que scénaristiquement parlant, il te montre au fait ce que t'aurais aimé voir, c'est-à-dire que le mec qui avait découvert la formule des super pouvoirs et qui les a utilisés a déclenché ses super pouvoirs, mais seulement il s'est fait dégommer par la police. Tout ça tu le vois pas, tu le vois simplement en flashback rapidement. Et au fait, l'histoire commence quand il est déjà mort, quoi.
Oui, enfin tu le vois en flashback, surtout des flashbacks genre des doubles splash pages ou alors des pages complètement sans bulles. Ouais. Comme ça on les tourne vachement plus vite.
Ouais.
C'est vrai qu'on va mettre 5 minutes à le lire et on va attendre 4 mois pour le numéro d'après.
Enfin non, parce que 5 minutes peut-être pas, parce que
non parce qu'à la fin il y a plus de texte quand même.
Ouais, puis c'est long, mais c'est toujours aussi mauvais. Par exemple, à un moment donné, c'est même ridicule, t'as un mec qui se ramène avec un téléphone et qui dit regardez, c'est déjà sur internet, la séquence où il bute le super-héros là, et juste après il se retourne et tu vois plein de journalistes à leur fenêtre. C'est genre ils apparaissent comme ça quoi. Parce que il suffit de dire oui c'est sur internet et ça y est quoi, les journalistes ils apparaissent, avant ils étaient pas là. Enfin bon, c'est tellement cliché, tellement, et en plus l'histoire n'avance pas quoi, c'est-à-dire qu'il
non, mais non, c'est ça qui est terrible.
Le pire c'est qu'il a sauté le truc intéressant, c'est-à-dire il avait un sujet intéressant, on voulait voir ce jeune héros et se mettre à sa place, genre j'ai des super pouvoirs, qu'est-ce que je vais faire avec, est-ce que je vais mal tourner, est-ce que je vais en faire de bonnes choses. Non. Il tue le mec, il le montre pas, il le fait hors champ.
Bah, on l'avait vu qu'il avait mal tourné puisqu'il avait déjà été cambriolé une banque.
Ouais, mais je m'attendais à ce qu'on continue quoi sur les aventures de ce mec-là. Et là, pas du tout. Au fait, il le tue, il nous le montre en flashback Et
maintenant, pour moi, c'est pas les aventures de ce mec-là. Pour moi, là, c'est les aventures du petit Black qui essaye de les sauver.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment passionnant? Franchement, moi, ça me fait prodigieusement chier. Et puis dans l'éthique d'écriture de Bendis, vraiment, c'est limite de l'autoparodie, quoi. Il tombe dans tous ses travers. C'est vraiment un condensé de tout ce qu'il faudrait pas faire dans les comics de Bendis. Donc, franchement, le retard en plus qui font que c'est scandaleux, quoi.
Rappelons que le numéro 1 est sorti en septembre 2011.
Oui.
Nous sommes en août, fin août, nous avons le numéro 4.
Ouais,
mais de toute façon, Bendis est véritablement un enfoiré. Ses projets indés, il ne les supporte absolument pas. La preuve avec Powers qui sort tous les 36 du mois. Là, il nous annonce la suite de Scarlet. Oui, bah déjà sort des Powers, sort-nous des Brilliant, hein, t'as quand même commencé une série qui est censée être un ongoing, voilà. Il nous sort Takio en même temps, enfin, plus ses 8 séries mensuelles chez Marvel, je vois pas comment le mec il peut s'en sortir.
Oui, bah même chez Marvel, il tient pas ses promesses, puisque Ultron War.
Ah mais si, c'est l'année prochaine. Il y a toute une interview à la fin où il nous explique ça, il nous parle de ses projets pour ses nouveaux X-Men et puis Ultron War et puis sa nouvelle série, hein, Powers Bureau, bien sûr. Déjà que Powers ne sort pas, c'est bien la peine d'en faire une deuxième.
Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que Bendis, c'est le seul mec qui annonce qu'il part, mais il part jamais aussi.
Il part en novembre.
Ouais.
Oui, mais Ultron War, c'est l'année prochaine.
Oui, mais Ultron War sera un event.
Oui, d'accord, mais enfin, qu'importe.
Ça sera quand même sur les Avengers, je pense.
Enfin bon, bref, enfin voilà, quoi. C'est quand même beaucoup de bruit à chaque fois pour rien, quoi.
Bon, c'est un gros pass, hein, ce truc.
Oui, non, c'est non, vraiment pas intéressant.
Dépensez pas votre argent là-dedans.
J'avais une petite précision par rapport à Super Crooks. Je viens de me rappeler d'un truc. C'est qu'en fait, le plot, ça avait été fait aussi avec un réalisateur espagnol qui s'appelait Nacho Vigalondo, qui était justement La Capo. Et donc oui, tout à fait, je pense que le film, ils ont déjà commencé à travailler dessus, parce que là, c'est un peu plus concret même que d'autres projets.
Effectivement, ouais, c'est vrai.
Voilà, c'était juste un petit...
Ouais. Non, ben, j'apporterai une précision également très intéressante. Il a un petit peu le nom d'un réalisateur ou d'un acteur porno, ce monsieur. Tu viens de dire.
Il appréciera s'il écoute.
Je suppose, ouais. Je vais encore recevoir des messages
d'insultes.
J'allais dire au contraire de louanges extraordinaires par rapport à mes commentaires super super judicieux.
Donc après la dope de la semaine, on peut parler de mon coup de cœur.
On va finir avec la partie indé avec un retour chez Image. Ton coup de cœur, Sam, c'est le
Invincible 94.
Je voulais sortir une connerie, mais il y a rien qui est venu là tout de suite, donc tant pis, c'est pas grave.
Invincible Iron Man, t'aurais pu dire.
Non, ça reste pas d'être mon coup de cœur. Par Matt Fraction. Donc Robert Kirkman toujours au scénario, Corey Walker et Ryan Otley au dessin. Donc Invincible qui bizarrement on ne voit pas Invincible, enfin sur deux cases, et même son remplaçant on le voit sur deux cases. Donc c'est en tout on doit avoir une page donc si on additionne le tout sur Invincible, puisque en fait c'est plutôt l'entourage de l'Invincible qui est vraiment mis en avant, c'est-à-dire Monster Girl et Robot qui sont en fait là depuis quasiment le début de la série, même depuis l'épisode 2 en fait. Donc on sait qu'ils ont été piégés dans une dimension parallèle, la dimension Flaxan, et que cette dimension maintenant nous attaque, enfin attaque l'univers d'Invincible. Et donc ça tirait un peu en longueur cette histoire, je me demandais un peu où ça allait. Et franchement, la fin est énorme. C'est-à-dire que déjà tout l'épisode nous explique comment ils ont vécu dans la dimension Flaxan, comment ils se sont rapprochés, comment ils sont tombés amoureux, comment ils ont mené la rébellion, enfin tout le truc. Et la fin est énorme. Vraiment, c'est celle-là, je me suis dit, je commençais un peu à douter de Kirkman ces derniers mois, et là il nous sort un truc. Voilà. Donc gros coup de cœur cette semaine. Invincible, c'est bien.
Putain, voilà, c'est pas vrai. Ils arrivent dans Walking Dead.
Non.
Non, c'est Suprême qui arrive dans Walking Dead.
Rassure-toi, non.
Il fait tourner les séries comme ça.
Voilà, donc c'est un bon gros bail. Mon gros coup de cœur, c'est.
D'accord. Et ben on va aller maintenant chez Marvel et on va voir que il y a des choses qui peuvent être très bien ailleurs et des choses qui peuvent être très pourries chez Marvel. Alors cette semaine je n'ai pas de coup de cœur du tout, mais par contre j'ai un gros coup de gueule. C'est le Wolverine 312. Alors je ne lis pas Wolverine, je n'ai pas lu cet arc. J'ai lu celui-ci parce que quand j'ai vu les spoils passer, je me suis dit je peux pas rater ça. Il faut vraiment que je le lise pour voir si c'est vraiment pourri à ce point. Effectivement. C'est donc Jeff Loeb au scénario, Simone Bianchi au dessin. Alors au niveau dessin, il y a rien à dire. C'est super beau, c'est super propre. Non, franchement, vraiment génial.
Ouais, puis là je le feuillette, j'ai l'impression que c'est quand même du Bianchi pas trop statique non plus, quoi.
Ouais. Pour une fois. Bah, en général, quand il est sur Wolverine, il est plus inspiré.
Ouais, puis il a eu du temps pour préparer cet arc aussi.
Oui, parce que ça fait 5 ans qu'on attend la suite de cet arc-là. Hein.
Donc là, non, franchement, de ce côté-là, il y a rien à dire. Par contre, c'est au niveau du scénario où ça pêche. Et ça pêche plus que beaucoup, puisque ça va nous changer tout Wolverine avec cet épisode. Alors, je vais le spoiler. Donc, si jamais vous voulez vraiment avoir la surprise, si vous avez réussi à éviter les spoils sur le net, avancez, regardez le minutage et avancez à la review suivante.
D'accord, je vais faire ça. Je vais regarder le minutage et je vais avancer.
Si vous avez pas le minutage sous les yeux, comptez à peu près 5 minutes. Le temps qu'on se mette tous dessus à le bâcher, parce que tout le monde ne connaît pas encore cette fin. Et une fois que vous allez la savoir, ça va bâcher. C'est parti pour le spoil. Donc dans l'épisode, Wolverine rencontre Remus, hein, bien sûr, la sœur de Romulus, logique.
Bah oui.
Donc on nous parle de toute une espèce de pseudo-race lupine qui aurait évolué différemment de la race humaine, que c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi qu'on a vachement plus de mutants avec des pouvoirs de type féral par rapport aux autres.
Ouais, bah c'est ce qu'il avait déjà raconté dans la...
Voilà. Mais que tout ça n'est peut-être qu'un mensonge, en fait. Hein.
Oui.
Par contre, ce qui ne serait pas un mensonge, c'est qu'ils vont attaquer la base de Romulus, et après un gros combat contre Sabertooth, où apparemment, il lui replante les griffes dans la tête, ça servait bien à quelque chose de le ramener à la vie. enfin, on ne sait pas vraiment s'il est mort, mais après s'être pris en général des griffes en pleine tête, dans le travers le cerveau, c'est comme ça qu'il l'avait tué la première fois, enfin en tout cas qu'il l'avait bien décérébré. Bon. Wolverine tombe sur Romulus, dans un caisson enfermé, dans un style très Weapon X, hein. On a l'impression de voir Wolverine à l'époque de Barry Windsor Smith. Et Romulus donc sort déjà une quatrième griffe. Alors je me rappelais pas qu'il avait cette quatrième griffe. Je sais pas si quelqu'un peut confirmer.
Non, je m'en souviens pas parce que Romulus le connaît pas comme personnage. J'ai pas envie de le connaître.
En fait, il sort une griffe un petit peu au niveau de son pouce, hein, une quatrième griffe. Hein, il est encore plus puissant que Wolverine. C'est-à-dire que c'est exactement comme Dragon Ball. Tu vois, t'as le Super Saiyan. Après, t'as le Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3. Bah là, voilà. Romulus, il atteint un niveau au-dessus, il a atteint le Wolverine Super Saiyan 2 avec la quatrième griffe. On attend la cinquième. C'est comme les chevrons dans Stargate aussi. Hop, il y en a un septième, hop, il y en a un huitième.
C'est un peu ça aussi dans Green Lantern, hein, parfois.
Non, ouais, ils ont réussi à garder le truc sous contrôle quand même.
Ouais, à peu près, parce que là, c'est juste ridicule. Puisque, et c'est là la grosse révélation, Romulus lui annonce, puisqu'il ne s'en rappelle plus, puisque oui, on lui dit qu'il avait récupéré ses souvenirs après House of M, mais il n'avait pas tout récupéré.
Oh, putain.
Comme si on nous avait pas fait sécher. Ouais,
après House of M, j'ai oublié mon porte-clé en semelle de tong, faudrait que je le récupère un jour.
Voilà, et la chose qu'il a complètement oublié, c'est qu'en fait, c'est Wolverine lui-même qui est à l'origine du projet Weapon X.
Ouais.
Voilà. J'attends vos réactions.
C'est quand même la grosse cote, hein, les gars.
Mais comment c'est possible?
Ah, voilà. C'est pas possible, c'est du Jeff Loeb.
Voilà. Donc moi j'ai envie de dire à ce monsieur Jeff Loeb qu'il arrête tout simplement d'écrire des comics, qui reste sur la branche animée de Marvel où il fait de la merde, qui continue à faire ça, puisqu'on a vu Ultimate Spider-Man, faut avouer que c'est pas très bon. Donc il continue à faire ça, qui continue à pourrir un univers qui de toute façon n'a aucun intérêt, mais qu'il arrête d'écrire, quoi. C'est pas la peine. Vous pensez que ce monsieur va faire partie du Marvel Now maintenant? Avec Nova?
Oh, mais moi j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il est à la tête du projet Weapon X? Oh, je sais pas. Moi
t'as, Steve, t'as oublié que Wolverine, c'est lui qui est à l'origine des X-Men aussi. C'est lui qui a fait les premiers X-Men.
Bah oui, c'est vrai, First X-Men, j'avais oublié.
Voilà. Donc après, il a fait Weapon X.
On va nous dire que c'est le premier mutant aussi.
Bah oui. Et puis, non, vous savez pas.
C'est le dieu des mutants.
Mais non, c'est lui Captain America.
Bah oui.
Et c'est lui Bucky. En fait.
Ah non,
moi j'ai pas lu ce comics, mais j'ai vu sur Bleeding Cool la page de fin. Moi j'ai bien aimé le côté Austin Powers surtout de l'image, mais avec
non mais enfin, le problème c'est
ils font en sorte de bien cacher les parties de Romulus.
Non mais en plus ils font pile poil là où il faut pas, quoi, Romulus.
Ouais. Il a pas peur de se faire rembourser les parties, mais bon.
Mais ça repousse.
Ah oui, c'est vrai.
Facteur auto-guérisseur, ça repousse. Non mais enfin franchement, faut avouer que Wolverine, c'est lui qui était à la tête du projet Weapon X. Dans le genre idée de merde, je suis pas certain qu'on puisse faire pire.
Oh,
non, mais ça veut dire que c'est lui.
Moi, ça m'intrigue.
Et Weapon X, donc même Captain America, c'est le premier Weapon, donc.
T'es Weapon Zero, ouais.
Donc il serait derrière tout ça aussi.
Bon, moi, ça me donne envie de dire du Wolverine.
Ou juste de Weapon X, alors juste du fait qu'il ait été transformé en.
Qui est complètement con.
Ok. C'est bizarre. Après, c'est peut-être un mensonge. Peut-être que dans le prochain numéro, ce sera ce sera en fait juste une astuce. En fait, c'est Romulus qui veut lui faire croire ça pour le déstabiliser, je sais pas.
Non, en fait, c'est Xavier.
J'ai pas l'impression. Projet X.
Non, mais surtout, c'est que House of M, maintenant, ça date de 2005.
Ouais.
Donc, ça fait 7 ans. Donc, le mec, je pense qu'il a, même dans l'univers Marvel, où le temps se passe pas de la même manière.
Il a dû passer un an.
Voilà, un an et demi. Dit au bout d'un an quand même, putain, ça y est, t'as repris le contrôle de tes souvenirs, c'est bon.
Non, mais voilà, qu'on nous sorte, il y a encore des souvenirs qu'il a oubliés.
Ouais.
C'est bon, quoi. C'est bon. Je veux dire, on nous l'avait depuis les années 70. Ouais. Ça va. Hein. Donc là, ça c'est vraiment mon coup de gueule de la semaine, c'est la grosse merde de la semaine, et surtout n'achetez pas ça, quoi.
Ouais.
N'achetez pas ça, pitié. C'est vraiment pourri. Bon, on va passer à autre chose quand même, parce que on va pas rester 3 heures là-dessus. Donc c'est un gros pass, hein, comme vous l'imaginez. Et on va passer à Deadpool Kills the Marvel Universe numéro 4.
Donc là, à la fin de la mini-série, donc pour un mois, on a eu tout. Donc Bunny, tu t'y es mis aussi.
Oui.
Donc,
oui.
Toujours Cullen Bunn au scénario et Dalibor Talagic au dessin. J'avais trouvé le numéro 2 et 3 plutôt réjouissant au niveau des morts des personnages iconiques, mais j'ai trouvé la fin très faible et pas finalement. Je me serais attendu à un truc beaucoup plus gore, beaucoup plus irrévérencieux, et finalement c'est quelque chose qu'on a déjà vu en plus dans plein d'autres comics, même chez DC avec Superboy Prime et compagnie. Je veux dire, à rigueur, il aurait été vraiment dans la surenchère de violence, pourquoi pas, mais là ça se termine en plus très très doucettement. Donc j'étais très déçu par cette fin. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Bunny?
Bah écoute, moi j'ai bien aimé les premières pages, ça m'a fait beaucoup rire le coup des super vilains qui se suicident.
C'est-à-dire, ah oui, ça c'était immeuble, très drôle.
T'as un immeuble, quand même le Caïd, mais il est même à côté de Nick Fury, ils sont tous alignés, et ils se jettent tous d'un building. Et alors, tu les vois tomber comme des mouches les uns après les autres, t'as un journaliste qui commence, t'as le Punisher qui sort du bâtiment, t'as le journaliste qui veut lui poser une question, le Punisher qui lui tire dans la gueule, et qui lui dit « ouais, j'ai pas le temps de répondre à tes questions », et en même temps, tu vois le Caïd tomber juste à côté du Punisher, enfin c'est complètement, mais...
C'est très con, mais justement, c'est toutes ces morts des personnages iconiques, elles sont bien faites, parce que en fait, il prend les méchants qui ont des pouvoirs normalement qui sont tournés en ridicule en général dans les comics, et en fait, ils se rendent compte que ces pouvoirs, s'ils étaient vraiment utilisés par des méchants avec des idées vraiment pour tuer tout le monde, ils seraient vraiment très puissants. On voit justement, je crois, comment il s'appelle, The Puppeteer, celui qui utilise des poupées pour contrôler les gens. Puppet Master, voilà, s'il se mettait à vraiment avoir envie de tuer tout le monde, il pourrait tuer tout le monde.
Peter, c'est le pète et ça pue.
Enfin bon. Donc, mais ce côté-là est sympa, mais j'ai trouvé la fin un peu décevante. Moi, je trouve que ça fait un très bon hors-série à 5,40€ chez Panini. Pourquoi pas, quoi.
Ouais, enfin, ça fait un peu cher parce que finalement, c'est que 4 parties.
Bah, tu sais, c'est ce qu'ils ont fait avec Wolverine Kills de Marvel Universe.
Voilà.
Un peu abusé, bon, mais non, mais cette fin quand même, qu'on va pas révéler, mais c'est vraiment, franchement, si vous avez une soirée à animer, une bonne petite blague plus pourrie que les miennes, la plus pourrie que Puppeteer par exemple, demandez à Cullen Bunn,
ouais.
Parce que franchement, oh, oui, la musique qui termine son truc, c'est vraiment la blague foireuse, tu vois, à la fin, quoi. C'est genre,
quoi? L'idée est pas mauvaise, mais il aurait dû aller plus loin, je trouve.
Ouais, non, mais là,
c'est con.
Petite blague de merde, quoi. Avec la réplique finale.
Un check it moins. Et ouais, voilà. Un check it pour la série entière, qui était pas trop mal.
Pareil, totalement pareil. Bon, il y a les premières pages qui restent quand même assez, assez bonnes, quoi.
On passe maintenant à la partie Ultimate.
Le Ultimate Comics Ultimate 14. Sam Humphries au scénario, Billy Tan et Timothy Green 2 au dessin.
Non!
Ça fait très mal aux yeux. Oui, ça fait très mal aux yeux. Soyons honnêtes. Donc, comics qui démarre bien. Puisqu'on a en fait les Ultimates qui sont envoyés au Texas pour essayer de mater ces enfoirés qui ont fait sécession et qui ont mis la main sur en fait un labo du Shield avec tout plein d'armes expérimentales, dont une quête nucléaire que ces enfoirés n'hésitent pas à envoyer sur Washington.
Mais c'est qui ces enfoirés?
C'est en fait un groupe d'hommes d'affaires qui a pris le contrôle du Texas.
Non, mais c'est New York en fait qui veulent détruire, parce que Washington a déjà été détruit. Mais... Le postulat de départ était sympa, enfin de retrouver l'équipe un petit peu fonctionnelle.
Voilà, qui se reforme petit à petit.
Se reforme, ça c'est pas mal, mais...
Mais le dessin gâche tout, en fait. Au bout de 10 pages, ça fait très mal aux yeux.
Alors, Billy Tan, ça va encore, mais alors Timothy Green 2, déjà qui m'avait bousillé mon numéro 12 de Redwood and the Outlaws, là, c'est juste horrible, quoi. Et j'aime pas trop dans une seule issue quand on a plusieurs dessinateurs, surtout quand c'est pas vraiment dans un but narratif, en fait, parce que là, c'est vraiment, ça se passe au même moment. Et il y a vraiment une grosse différence entre les deux dessinateurs, et surtout une différence de niveau assez impressionnante.
Surtout que Green 2 a dû dessiner Red 2 dessin en même temps, en fait.
Bah ouais, je sais pas.
En termes de temps, ça
fait bousiller les séries qu'adore King Ed, mais là j'étais un peu déçu parce que bon, au final l'histoire est sympa, même si c'est un peu lent et on se dit que ça va enfin démarrer peut-être dans la prochaine issue.
Ouais. On annonce un gros changement.
Par contre, je pense de plus en plus que le fameux changement dont on parlait depuis 2-3 mois, c'est ce qu'on disait, quoi. Enfin.
Parce qu'on a un complot politique, en fait, qui déstabilise le président.
Avec un président, moi, je dis, mais bon.
Voilà. En fait, on a un gros complot politique pour déstabiliser le nouveau président, qui est, en fait, l'ancien secrétaire à l'énergie. Parce qu'en fait, il reste plus personne à Washington, excepté lui.
Ouais. C'était comme Galactica.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, tiens.
Le problème, c'est que
ça ressemble énormément à quelque chose.
Ce qu'on pense qui va arriver dans le 15, ça aurait été mieux si on l'avait eu en cliffhanger à la fin du 14. Ça aurait, je pense, bien contrebalancé l'épisode.
Ouais, tout à fait. Donc pour moi ça c'est un bail parce que bon la série est intéressante, c'est vraiment dommage que graphiquement ce soit pas bon, mais j'espère qu'il va y avoir une équipe finalement de meilleure qualité sur la suite.
Stable,
quoi. Ouais, stable, ouais. Que ça change pas tout le temps.
C'est voilà, dommage que tu n'aimes pas ce monsieur Kinyat, puisqu'on avait prévu de débarquer chez toi ce week-end avec lui, faire une fête, mais
avec Timothy Green.
Je pense que c'est compromis là du coup.
Le 1, je sais pas,
c'est bien.
Mais je pense que il faudrait peut-être les mettre ensemble avec Jeff Lobb qui nous fasse un comic.
Comme ça personne n'achèterait pour une fois.
Ok, on continue avec le Amazing Spider-Man 692. C'est un 612, n'importe quoi.
Bah, on aurait bien aimé que ce soit le 602 parce que pour un 50e anniversaire, c'est pas terrible.
Ouais, donc c'est le 50e anniversaire, c'est l'épisode qu'on attendait, qu'on nous a teasé depuis des mois, Alpha, avec le sidekick de Spider-Man. On va parler que de l'histoire principale, qui s'appelle Point of Origin, toujours écrit par Dan Slott, au dessin Umberto Ramos, et ancré par Victor Olazaba. Bah, en gros, on reprend la même chose que les origines de Peter Parker.
Sauf que cette fois, c'est un gros connard.
Sauf que cette fois, voilà, c'est un gamin d'aujourd'hui, un petit con, et puis c'est Peter qui est responsable de l'expérience qui tourne mal, enfin, qui est responsable.
Ah non, parce qu'il y a un complot derrière.
Il y a un complot derrière, oui, voilà. Enfin, c'est lui le scientifique qui montre cette expérience, et ce n'est plus le docteur Octopus, comme je crois que ce sont les nouvelles origines maintenant.
Ah non, non, ça compte
non,
pas.
Non, ça finit plus longtemps, heureusement.
Non, ça c'est Dunbar, non, on oublie.
Je savais que ça allait faire crier. Oh là là, comment je suis trop fier de moi.
En plus, avec le Captain Power, rappelle-toi, Captain Power.
Ah oui, c'est vrai.
C'était une mamie qui avait pris. Non, mais sans déconner, c'était une mamie qui se transformait en Superman, je crois.
Oui, c'est ça, c'était une vieille dame. T'es pas vieille durant l'expérience, mais 10 ans plus tard, c'était une catastrophe, quoi.
Ouais, voilà, c'était une espèce de gorée qui se transformait en...
Ça, dans l'histoire à la con, John Bond, putain, il a fait fort.
Ouais, là, finalement, on n'est pas si loin que ça, parce que Alpha, finalement, c'est un personnage de la Légion. Hein. Dan Slott a réutilisé quelques idées de la maison d'en face, puisqu'il a plein de super-pouvoirs, mais un seul à la fois. Eh oui, ça vous rappelle personne? Donc Ultra Boy, le personnage de la Légion qui a exactement les mêmes pouvoirs, sauf qu'il est quand même plus responsable que ce petit con d'Alpha. Bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Le truc le plus intéressant, c'est ce personnage qui revient à la fin, qui, pour moi, sera sûrement l'ennemi du 700.
Ben, j'espère pas.
Bon, on va voir où ça va aller. Alors, on va expliquer vite fait pourquoi il s'appelle Alpha. Tout simplement parce que ils font venir tous les scientifiques, donc Hank Pym, Reed Richards, Tony Stark, pour analyser ce gamin. Et ils s'aperçoivent qu'il a le potentiel de devenir un super puissant personnage du type Omega, comme Sentry ou autre personnage ultra puissant comme ça. Et que bah pour le moment, il en est pas encore là, donc c'est qu'un Alpha. Mais plus tard, il viendra Omega.
Oui, bien sûr.
Voilà. Ouais, franchement, pour un épisode de 50e anniversaire, c'est petit.
Voilà.
Je sais pas si c'est moi qui suis mal luné cette semaine ou si j'ai vraiment pas eu de chance avec les merdes que j'ai lues, mais
Non, mais c'est j'ai eu le même sentiment, c'est-à-dire que c'est censé être le 50e anniversaire, donc tu te dis ça doit être quand même un épisode important. Au final, il se passe pas grand-chose.
Ouais, et puis est-ce qu'il y a seulement je sais pas les personnages les plus connus autour de Spider-Man qui font une apparition ou même pas?
Bah, on a Tante May,
MJ sur une page.
MJ, ouais, voilà, Jameson Senior, etc., mais
c'est pas l'objet, quoi. C'est un peu dommage.
Non, c'est Spider-Man qui va devenir mentor de Alpha, quoi.
Ouais. On comprend bien l'intention de faire un peu de parallèle avec la naissance de Spider-Man.
Sauf que dès la première page, on comprend la différence entre les deux, quoi. C'est-à-dire que Alpha c'est un petit con et que Peter Parker, dès le départ, il était bien.
Ouais.
Voilà. Bon,
pour nous montrer que c'est la façon dont t'es élevé que ça change les choses.
Voilà, ouais. Ouais, bah, il fait le héros merci, et pas l'inverse.
Pas trop con. On avait compris, quoi.
Voilà. C'est Peter Parker qui fait le Spider-Man et pas l'inverse. Oh, vous voyez, ça y est, j'ai spoilé la fin. J'ai spoilé la fin de la saga, hein, pas de l'épisode.
bon, bah, franchement.
On dira pas que c'est le retour d'Ezekiel.
Check it moins, quoi.
Ouais. Check malheureusement, je suis d'accord.
Voilà. On va finir avec du décès et le coup de cœur de Kinged.
Oui, High Vampire numéro 12. Alors, cette série, bah, j'en dis toujours beaucoup de bien. Et donc, toujours la même équipe depuis le numéro 1. Joshua Hale Fialkoff au scénario et Andrea Sorrentino au dessin. C'était passionnant, ce numéro. Donc, c'est la conclusion un petit peu de cette bataille qu'il y avait entre les vampires qui étaient rassemblés dans un seul et même lieu contre Lord de Van Helsing qui en fait grâce à la magie en fait ils étaient sous forme de zombies, donc t'avais vampires contre zombies et quand les vampires se faisaient tuer ils devenaient des vampires zombies tueurs de vampires, donc c'était un peu compliqué mais c'était un peu le bordel. Et donc comme c'est le bordel sur Terre, qui c'est qu'on voit débarquer? On voit débarquer Stormwatch. Donc on a l'équipe avec justement Midnighter, Apollo et Jack Hawksmoor qui se retrouvent au milieu de tout ça, qui vient pour essayer de régler la situation. C'est hyper bon au niveau des dialogues. Le duo entre justement Midnighter et Apollo est vraiment très bon. C'est très malin. La conclusion de l'histoire est vraiment passionnante. Moi, j'ai adoré. Et alors, ça se termine sur un gros cliff, un gros retournement de situation. C'est excellent et c'est superbe. Donc, une très bonne série. Stormwatch est presque mieux écrit par Joshua Fialkoff que par l'auteur actuel de Stormwatch,
Peter Milligan.
Mais bon, ça. C'est quand même pas mauvais non plus Stormwatch la série, donc mais là ils sont vraiment très très bien et il y a ce côté vraiment d'univers complet avec justement les équipes qui surveillent un peu ce qui se passe sur Terre, qui est vraiment bien fait. Donc un gros coup de cœur, j'espère que cette série marchera et continuera à être faite parce que c'est très bon. Donc un gros bail.
C'est marrant, t'es un petit peu le seul à en parler finalement, mais finalement.
Ouais, mais pourtant elle a au niveau critique sur le net, elle a plutôt bonne réputation, mais c'est vrai qu'elle est pas très très lue, mais voilà.
Allez, je vais faire mon troll 2 secondes. Est-ce que Peter Milligan a écrit un truc bien depuis qu'il est arrivé chez DC sur New 52?
Est-ce que Peter Milligan a écrit un truc bien depuis 10 ans?
Tada, voilà, ça c'est fait, maintenant.
Golgotha, sur l'arc Golgotha.
Ah oui, sur les X-Men, c'était tellement
trop
bien.
Attends, c'était trop bien.
Ça m'a pas du tout envie.
Il y avait une ambiance ouais. Là-dedans.
Mais ça m'a
pas donné envie de gerber. Du tout.
C'était il y a plus de 10 ans.
Ouais.
Le sang d'Apocalypse.
Ah oui.
C'est encore mieux.
M'a fait saigner du nez.
Et puis, qu'est-ce qu'a vu Lorna? Alors ça c'était le somme, c'était le couronnement de sa carrière. Ce que l'on a vu, dans l'espace, là, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'elle a vu.
Bah,
je pensais
Boop.
à une grosse saucisse volante.
Mais non, je te dis c'est Boop.
Oui, je sais que c'est Boop, mais bon. Bah c'était vachement bien. Je
pourrais le dire.
Allez, on continue, on termine avant qu'on dépasse le temps qui nous est imparti avec le Flash numéro 12. Francis Manapul, Brian Buccellato au scénario, Francis Manapul au dessin, Brian Buccellato qui fait les couleurs. Flash, c'est toujours très très beau.
Mais est-ce que bon à lire?
Oui, c'est très bon aussi à lire. Il y a toujours une mise en scène qui est vraiment bien pensée par Francis Manapul. Il nous fait du J.H. Williams 3 en pastel, quoi. J'ai l'impression. Il y a des moments, il y a des très bonnes scènes, de l'inventivité dans le storytelling, en fait. Bon, après, il y a des moments, c'est beaucoup plus classique, hein. On est plus face à un comic classique avec un découpage de cases traditionnel.
Ouais.
Donc là, c'est les nouveaux Rogues.
Ah, ça y est.
Voilà. Bah, on a vu un petit peu la représentation de pas mal de membres. Et puis, bah, cette fois-ci, on les voit agir ensemble. Bah, Sam, toi qui l'as lu aussi.
Donc, effectivement, moi aussi, je trouve que c'est un très bon épisode. J'avais un peu de doute sur les épisodes précédents. Notamment, je crois que c'était l'épisode 10 où il y a eu l'année en Afrique ou un truc dans le genre.
Ça gorille la Grodd.
Voilà. Non, Grodd, ça allait. Ça, je trouvais ça bien. C'était avec sa copine où il décidait de rester mort. De faire croire, de continuer à faire. Je trouvais que c'était débile comme idée. Donc là en fait il retrouve le docteur avec lequel il bossait au début, qui en fait s'est retourné contre lui, qui a décidé de le faire passer pour un incapable.
Ouais, qui a profité de son absence pour s'emparer un petit peu des médias et de développer la source d'énergie qu'il a développée avec Flash, hein, bien sûr, et de tirer tous les mérites et de faire passer Flash pour un méchant finalement.
Non mais surtout j'adore l'excuse qu'il donne à Flash. Oh, c'est une expérience sociale. sur la la manipulation des masses. Très sympa, comme Michael, t'as pas du tout envie de le buter.
Ouais, c'est pas du tout un gros con.
Voilà. En même temps, il peut pas dire qu'il a été enlevé par un scroll, ça fait pas partie de son univers, donc.
Voilà. On a le retour, en fait, consécutif des différentes rogues, notamment la sœur de Captain Cold, dans une toute nouvelle version, très différente de celle de l'ancien univers DC.
Ah, ça c'est clair.
Ça servait un peu à rien dans l'ancien univers DC, c'était un peu ridicule, parce que pour ceux qui s'en souviennent, c'était une méchante qui était sur des patins à glace. Voilà. Bon, d'accord, oui, c'était légèrement ridicule, mais bon. Alors que là...
C'était pour marcher en tandem avec son frère. Lui faisait la glace et elle se déplaçait.
C'était pas du tout débile. Donc là, elle a une apparence beaucoup plus fantomatique. Et manifestement, le docteur en question l'a un peu... Voilà, on va le dire.
Ouais, et puis elle a surtout une relation vraiment différente avec son frère.
Ouais.
Il lui a mis son cornet là où je pense.
Et ouais, voilà,
son cornet. Bah, la nouvelle version de Captain Cold, moi, je le trouve très bonne.
De boule, ouais.
Ouais. Ben, j'étais pas convaincu, moi, par le fait qu'ils aient tous récupéré des vrais pouvoirs maintenant, qu'ils aient plus vraiment d'équipement, que ce soit limite des mutants, quoi.
Ouais.
Et finalement, ça fonctionne plutôt pas mal. On oublie presque qu'ils ont des pouvoirs, enfin, ça change pas grand chose, au final, quoi. Qu'ils aient des pouvoirs ou que ce soit de l'équipement, ça change pas grand chose.
C'est juste pour la mise en scène, c'est plus sympa.
Ouais, voilà, c'est plus spectaculaire. Et donc, on va voir tous ces rogues qui vont, faire leur, ils vont utiliser le plan, bah, de la sœur de Captain Cold, dont j'ai absolument oublié le nom, d'ailleurs.
Slice ou un truc comme genre. Non, c'est autre chose. Bon, c'est pas grave.
Je sais pas. Et voilà, tout va se tourner contre le Flash. Il va pas avoir de bol. Et on aura la suite de cette aventure la semaine prochaine dans le Flash Annual. Et il me tarde de le lire parce que c'est vraiment très bon. C'est ma seule bonne lecture de la semaine.
Ben, le final est quand même super intéressant. Tout ce que tu veux, c'est lire la suite. Parce que là, il est légèrement dans la merde, hein, Flash.
On n'a qu'une semaine à attendre, donc ça devrait aller.
Voilà, ils ont bien joué le coup.
Donc, un bail pour celui-ci.
Bye bye.
On continue avec le Hawkman. Il y a des gens qui lisent ce truc, apparemment.
Ouais.
Parce que... Et vous êtes deux, en plus, c'est ça qui est terrible.
Je sais pas pourquoi, j'ai été pris d'un petit coup de folie, je l'ai lu.
Donc, Hawkman numéro 12, donc avec Rob Liefeld à l'histoire, mais pas vraiment au scénario, parce que au scénario, c'est Mark Bolton.
Il fait la couverture, quand même.
Super, il y a une histoire. Par Rob Liefeld, vraiment, tu veux parler?
Et les dessins, c'est Joe Bennett. Alors, Joe Bennett, il se débrouille très très bien. Il nous fait un Hawkman vraiment très très massif, très impressionnant avec son armure. Moi, j'aime bien ce design. C'est le combat de Hawkman contre Pike. Pike, c'est ce fameux chasseur de primes qui avait été envoyé par on ne sait pas qui, enfin, avant la fin du numéro, pour récupérer Hawkman et son armure.
Est-ce que c'est un vampire?
Pike?
Oui.
Non, c'est pas Spike, c'est Pike. Mais je crois que c'est un ancien personnage de l'univers Wildstorm qui est réutilisé encore par Rob Liefeld. Et c'est en lien, en fait, on va se rendre compte très très vite avec la fameuse guerre entre les Demonites et les comment ils s'appellent les anges là,
les Kérubines.
Les Kérubines, voilà, les Kérubines.
Bim, avec
enfin, on a le retour de Thanagar qui rentre dans l'univers DC et de son implication dans l'histoire de Hawkman. Avec une apparition à la fin qui m'a fait très plaisir. Donc, une bonne lecture pour moi. Rob Liefeld s'en va de Hawkman et de tous ses autres titres d'essai à partir du mois prochain. Ces derniers numéros, ce sera le numéro 0. On aura peut-être de bonnes surprises. Pour moi, c'est un check-it plus, ce numéro.
Benny.
Oui, pendant qu'une mouette était en train de mourir à côté de chez moi.
Il y a des mouettes à Paris, c'est hallucinant.
Non, mais je plaisante. Non, mais ça faisait un bruit un peu qui pouvait faire penser à une mouette. Malheureusement, c'était pas ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, la fin est sympa. Maintenant, reste à savoir si la suite va l'être tout autant, si rien ne va changer, parce que comme tu dis, Rob Liefeld a un peu pris la mouche et est un peu parti brusquement malgré les sollicitations. Donc je sais pas s'ils vont modifier quelque peu le scénario. En même temps, il était secondé par quelqu'un, donc
je pense que c'est Mark Poulton qui va continuer par la suite, quoi.
On reviendra là-dessus de toute façon dans le Weekly News que vous aurez mardi.
Voilà, vous aurez des news croustillantes, vous saurez pourquoi exactement il est parti. On vous dira tout. Vous êtes bien sûr à l'écoute jusqu'à 20h.
What the fuck? Il est parti tout seul là, d'un seul coup. Donc Hawkman, un check-it?
On est sur Hawkman. Ouais, un check-it. Ouais, c'est sympa sans plus, quoi.
Ok, on termine avec Kinghead et qui a lu Docteur Manhattan numéro 1.
Ouais, donc Before Watchmen, c'est un gros bail. Donc alors, je vais vous donner les crédits, c'est JMS au scénario, et surtout, au niveau des dessins, c'est Adam Hughes qui revient, qui nous fait pas que des couvertures, il nous fait des intérieurs également, et les intérieurs sont d'aussi bonne qualité que ses couvertures en ce moment, donc c'est vraiment très très beau déjà, artistiquement. Et surtout, au niveau du scénario, JMS, il nous fait un truc très malin, c'est-à-dire qu'il a vraiment bien compris le personnage de Dr. Manhattan. On se met à sa place en fait. On le voit qui essaye d'imaginer toutes les possibilités qui auraient pu exister au niveau du temps, au niveau de l'histoire. Qu'est-ce qu'il aurait pu changer, qu'est-ce qu'il aurait pu faire. On sait que ses pouvoirs sont hyper puissants, donc il peut presque tout faire. Et en fait, il imagine différentes façons dont l'histoire aurait pu se passer. Et surtout, en fait, ça se termine avec un petit cliffhanger, mais vraiment. Vraiment intéressant, où on te dit mais ça se trouve peut-être que Watchmen ça aurait pu se passer complètement différemment, et j'ai vraiment envie de lire les trois suivants, savoir comment ça va se tourner. C'est un gros bail, et c'est vraiment très très beau, très très bien dessiné, donc franchement une bonne surprise après le Rorschach de la semaine dernière. C'était les deux numéros que j'attendais beaucoup, et je suis pas déçu.
Et t'as toujours pas lu Crimson Corsair?
Ah bah non, bah Crimson, c'est toujours pareil, c'est deux pages qui, si t'as pas lu les autres, tu comprends rien, alors pour l'instant, c'est un peu con quoi, parce que les gens qui veulent juste lire l'une ou l'autre des séries, ils se retrouvent avec deux pages en plus.
C'est que deux pages après tout, c'est pas grave.
Ouais,
c'est
moi j'ai lu celui de la semaine dernière dans Rorschach, Crimson Corsair, effectivement j'ai rien compris, sauf que bon. Je voyais même pas le rapport avec Watchmen exactement, ou bien alors j'ai oublié des trucs.
Si, c'est la BD que lit le gamin.
Ah c'est ça, d'accord.
c'est le truc qui est fait pour pouvoir acheter tous les numéros de Before Watchmen, mais
oui, c'est du foutage de gueule quoi.
C'est j'aurais préféré à la rigueur que ce soit un petit truc à part à la fin quoi.
C'est Len Wein hein, qui fait l'histoire.
Ouais, c'est ça. Mais en tout cas pour Adam Hughes, pour des intérieurs, c'est un gros bail.
Ouais, puis pas que pour ça si j'ai bien compris.
Et pas que pour ça, parce que l'histoire de JMS est vraiment très bonne également.
Donc en gros JMS refait les Watchmen à sa sauce.
Bah ouais, il imagine ouais, comment ça aurait pu se passer. Et, c'est ambitieux et j'ai bien aimé.
Bah c'est ce qu'il fait de mieux en général.
Ouais.
Quand il peut refaire les trucs à sa sauce et qu'on lui laisse faire le truc.
Voilà, il y a que 4 numéros donc il va aller au bout, j'espère.
Non, il va se barrer en plein milieu en disant je claque la porte, j'en ai marre.
Je ne travaillerai plus jamais avec DC, c'est terminé.
Parce qu'il est pas au courant qu'après il y a un truc qui s'appelle Watchmen et qui va chambouler tout ce qu'il est en train de mettre en place.
Il y a Adam Hughes qui fait des intérieurs, ça se trouve c'est lui qui va faire Aquaman après. Oh, ce serait bien. Je le vois
vous
bien.
Avez pas compris, vous avez pas compris. Vous savez pourquoi Alan Moore il fait plus rien en ce moment? Parce que c'est lui qui va faire Aquaman. Le truc totalement impossible.
Allez, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre entre-temps sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity, sur le site, bien évidemment, avec tous les autres articles, les guides, les tops et flops, les reviews, les news. Et bien sûr aussi dans le Weekly News, disponible le mardi. Et vous pouvez aussi nous envoyer des mails, l'adresse podcast@comiccity.fr. Et j'ai oublié un dernier truc, c'est les anciens épisodes sur iTunes. Il faut toujours que j'en oublie un, c'est pas possible. Donc on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Salut à tous.
Ciao, ciao.